En 1999, Nicolas Cage ira travailler avec un grand monsieur, Martin Scorsese. Bienvenue dans Citizen Cage.
Cop car.
I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence.
Put the bunny back in the box.
I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et comme d'habitude, c'est mon grand plaisir de dire bonjour à Julien Asuncao. Salut Julien.
Salut Alexis.
Et aujourd'hui, on va parler de...
À tombeau ouvert.
Je n'aime pas ce nom en français.
C'est vrai que... Le nom français, on a l'impression qu'ils ont voulu faire un jeu de mots sur le thème du film. Ça pourrait être une comédie avec, je sais pas
avec Christian Clavier.
Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, ça me fait un peu penser à ça, ouais.
Ouais.
Alors que bon, oui, le nom anglais, tu peux le dire, hein.
Bringing out the dead. Pff, ouais, aujourd'hui, ça va pas bien, moi et mon anglais.
En tout cas, ça fait plus sérieux, quoi.
Qui a quand même un peu plus la classe, et c'est quand même un film, c'est un film dramatique réalisé par Martin Scorsese, donc il faut du nom qui pèse un peu lourd, là.
Oui, voilà, c'est pour ça que c'est la traduction française, ça fait pas trop hommage, enfin hommage au film, je sais pas, on verra, on va en parler, mais en tout cas, connaissant le bonhomme, connaissant Martin Scorsese, on s'attend quand même à quelque chose d'un peu plus sérieux.
Ouais.
Et puis aussi, du coup, au niveau du casting, hein, on va en parler. Parce que donc, À tombeau ouvert, film américain 99, on y retrouve quand même Patricia Arquette, John Goodman, Ving Rhames, et bien sûr Nicolas Cage en héros principaux. Donc là aussi, quand même, ça envoie un peu du lourd, donc, il faut mettre un peu de respect sur le casting de base, quoi, sur le staff derrière le film. Et au niveau du thème, quoi, du synopsis, il s'agit de... on va suivre pendant 48 heures la vie d'un ambulancier. Malgré ses efforts pour garder les gens en vie, Franck... Je ne sais pas, on imagine le rôle d'une casquette, je crois que c'est ça. Hein, voit les fantômes de ceux qu'il n'a pas réussi à sauver. Il a tout essayé pour se faire renvoyer, mais il ne parvient pas à quitter le travail de lui-même. Donc voilà, là, on voit qu'on est quand même pas sur de la joie et de la bonne humeur.
Ça devrait être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de regarder.
Ouais, bon, on a eu un peu de tout, mais c'est vrai que connaissant aussi Martin Scorsese, souvent de la gravitas dans ses films. Donc ta façon d'en parler, j'ai l'impression que tu l'as pas forcément vu.
Non. Malgré le fait que je sois quand même assez connaisseur de la carrière de Martin Scorsese, c'est vrai que celui-là, je l'ai jamais vu. Étonnamment, j'ai l'impression que Scorsese fait partie de ce genre de personne qui est incapable de faire quelque chose de mauvais. Oui. Il est capable de faire des choses un peu subpar, entre guillemets, là, parfois, mais j'ai jamais vu un mauvais film de Scorsese, donc je m'attends pas à voir quelque chose de mauvais, du tout.
Oui, c'est ça, il y a des films des meilleurs films que d'autres dans sa carrière, mais c'est pas un tâcheron, quoi. Donc, généralement, son niveau le plus bas, ça reste des films qui sont tout à fait regardables et... En plus, là, le thème est intéressant, en tout cas.
Tiens, tu viens de dire ce mot, je suis un peu étonné par ça. Pour toi, c'est quoi son niveau le plus bas? C'est difficile à dire, hein.
Ouais, c'est difficile à dire. C'est sûrement des films qu'on n'a pas forcément vus, d'ailleurs. C'est là où c'est compliqué, en fait.
Parce que, je suis pas capable, en fait, d'avoir un nom dans ma tête, là.
On va me remettre dedans, je vais voir si... Non, parce que ceux qui
nous viennent... Mais t'as raison, parce que...
Ceux qui nous viennent à l'esprit en premier, c'est forcément ceux qui sont les meilleurs.
C'est ça, hein. Mais t'as raison, il y a plein de films que j'ai pas vu non plus, donc
tu vois,
y a
par plein exemple, de films. Y a... Un film comme Alice Doesn't Live Here Anymore, je l'ai pas vu, donc ça se trouve c'est nul. Mais par contre, tous ceux que j'ai vus sont bien.
En même temps, c'est ça, j'ai pas l'impression que ce soit nul. Enfin, je sais pas, il y a certains réalisateurs qui sont, quoi qu'ils fassent, sont pas capables de faire un mauvais film, puis j'ai l'impression que c'en est un, donc.
Après, voilà, moi, les films que j'ai pas vus dans sa carrière, je pense qu'il va y avoir peut-être 3 ou 4, donc, ça serait quand même pas de chance qu'ils soient tous catastrophiques. J'y crois pas trop.
Ouais. Non, c'est ça.
Tu vois, un film comme Kundun, non, moi, j'ai pas vu non plus. Bon. J'ai du mal à penser que ça soit horrible. Mais ouais, non, du coup, dans les autres, c'est tous des films. Bon, après, voilà, un film comme The Aviator, par exemple, ou Gang of New York, c'est des films que j'aime bien, sans...
Non, mais tu vois, ils sont pas mauvais.
Sans sensationnel, par contre, ça reste des bons films, quoi. Donc oui, effectivement, son niveau moyen est très élevé.
Faut aussi se dire que À tombeau ouvert est quand même écrit par Paul Schrader, qui est... pas n'importe qui, c'est le mec qui a écrit Taxi Driver, quoi. Donc,
voilà. C'est avec lui leur grande réussite à eux deux, enfin, leur grande réussite de son début de carrière.
Après un film sur les taxis, hein, maintenant on fait un film sur les ambulanciers et tout. Le gars qui n'a rien compris à Taxi Driver.
Ouais, c'est vrai. Là, je pense que ça va peut-être plus sympa de parler du problème spécifique au métier d'infirmier, mais.
Ouais. Non, mais voilà, donc. C'est ça, et le gars, il a quand même une équipe solide, puis bah, comme tu disais, il a quand même des acteurs qui sont quand même sacrément solides, donc je m'attends à passer un bon moment devant, quoi.
Et bah du coup, en parlant d'acteurs, tu fais bien, ça me fait penser qu'on je vais te proposer notre petit jeu maintenant devenu un peu habituel.
Petit jeu préféré, ouais.
Voilà, vu qu'on a... On va parler par Patricia Arquette, par exemple. Qu'est-ce que ça t'évoque, Patricia Arquette?
Patricia Arquette, moi, ça m'évoque Medium.
Ah, putain, j'allais dire la même chose, oui. C'est la série que je loupais jamais quand j'étais gamin.
Ouais, le fait est aussi que, malheureusement, Patricia Arquette, je suis pas capable de la replacer dans des films. Ouais, je sais qu'elle en a fait plein,
Après, dernièrement, dans Boyhood, elle avait été quand même, elle avait un rôle assez important. Mais c'est vrai qu'au final, Medium, je sais pas si c'était bien. Moi, quand j'étais gamin, je kiffais, mais...
C'était correct, quoi. Enfin, moi je trouve ça
fun. Je sais pas ce que ça vaut, en vrai. Si je le revoyais maintenant, je serais peut-être très triste du niveau du truc.
Puis, je sais qu'elle est aussi, dans la série de son pote, Martin Scorsese, Boardwalk Empire, quoi.
Je connais pas trop Boardwalk Empire.
Elle est dans les saisons 4 et 5, dans les dernières saisons, puis... Mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au final, je me rappelle plus d'elle pour ça que pour True Romance, alors que j'adore True Romance, et je sais qu'elle est dedans, quoi.
Ouais, mais on va dire que quand tu la regardes régulièrement, forcément, t'as le nombre d'heures que ça représente et d'attachement au personnage.
Je pense qu'aussi ta question, c'est pas forcément juste où est-ce que je la reconnais le plus, c'est aussi qu'est-ce qui m'a le plus marqué d'elle, puis tu vois, ça reste Medium. Je sais pas pourquoi.
Pareil. Après, on a John Goodman, et justement, on en parlait un petit peu en off. C'est vrai que John Goodman, c'est typiquement le genre d'acteur qu'on a vu dans plein de trucs, qui est toujours impeccable. Mais en fait, si tu dis, cite-moi un truc.
C'est difficile, mais je peux t'en donner deux, parce que ceux qui sont pour moi qui pop le plus souvent quand je pense à John Goodman, c'est bien sûr The Big Lebowski, et étonnamment Ten Lane Cloverfield ou Cloverfield Ten Lane, là le film dans un bunker avec
quelque
chose comme ça.
Oui, parce qu'il est récent aussi.
Ouais, mais aussi parce que sa performance là-dedans m'a marqué. Oui.
Genre. Je sais pas trop s'il est gentil ou méchant.
C'est ça, ouais. Puis c'est un excellent film d'ailleurs.
On est obligé de citer aussi un film des frères Coen, c'est quand même un habitué, donc. Ou Arizona Junior, mais bon.
Big Lebowski, c'est les frères Coen.
Oui, mais tu l'as cité au tout début, rapidement.
Je sais.
Moi, quand j'ai son image, ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent son image dans un film des frères Coen.
Oui, bah...
T'as
l'impression qu'il est tout le temps là, quoi.
Et encore, dans Big Lebowski, il joue un rôle un peu différent, je trouve, que dans Brother et Arizona Junior, tu peux plus se rapprocher les deux rôles, quoi.
Mais alors, tu vas me dire si c'est juste moi, mais parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement bizarre, parce que Moi et John Goodman, j'ai toujours ce sentiment étrange, à part, sauf dans The Big Lebowski, où ça va plutôt bien, mais qu'il a toujours des vêtements qui sont trop grands pour lui, tout le temps.
Ah, mais je pense que oui, il y a moyen.
Et à chaque fois que je le vois dans un film, je suis genre, mais qui c'est qui a fait son costume?
Bah ouais, mais je pense que c'est fait, enfin, dans les autres.
Peut-être,
Quand c'est les films des frères Coen, en tout cas, ça fait pas ça dans Ten Cloverfield Lane, bah, donc, ça...
Non, mais voilà.
C'est quand, voilà, ça fait partie à l'aspect... L'aspect comique.
Par exemple,
des...
j'oublie toujours qu'il est dans The Artist. J'oublie tout le temps.
Ouais.
Que c'est lui le patron dans The Artist. De Michel Hazanavicius.
Pour ouais, les francophones. Ouais, John Goodman sans la voix, c'est dommage.
Oui, bah oui. Mais voilà.
Donc, du coup, je refais une transition grâce à ça. John Goodman, qui est la voix de Sullivan dans Monstres et Compagnie.
Oui. Et de Pacha dans Cusco.
Voilà.
On en parlait tantôt.
Il a fait plus de voix que je pense que j'en sais. Et on va finir juste... On a le meilleur pour la fin. Scorsese, au final, on a dit qu'il n'y avait pas de mauvais film, mais quel est le film qui a marqué le plus?
Qui marque le plus de Martin? Ah...
C'est aussi dur que trouver un vrai film.
Tu vois, ça c'est fascinant parce que c'est pas le film que je trouve le meilleur de Scorsese, mais c'est celui qui me saute à la tête dès que j'y pense. Dès que je pense à Scorsese, c'est les Affranchis. Les Infiltrés, excuse-moi. Oui. Les Infiltrés.
D'accord. Excuse-moi, pas les Affranchis. Goodfellas, mais.
Mais alors, ouais. Goodfellas, pour moi, Goodfellas, je pense que c'est son. Meilleur. C'est celui que j'aime le plus.
Ah ouais,
mais quand je pense à Martin Scorsese, j'ai l'image de Jack Nicholson qui me saute à la tête. Ce qui est complètement con parce qu'il a pu jouer avec De Niro que n'importe qui et je devrais avoir l'image de De Niro qui me saute à la tête. Mais non, c'est Jack Nicholson qui pète son câble à la fin des Infiltrés. Puis j'adore ce film. Et aussi la coiffure de Mark Wahlberg dans Les Infiltrés.
Ouais, bon après moi Les Infiltrés.
Parce que je m'en remets toujours pas. Mais
Les Infiltrés, moi j'ai toujours le même problème, c'est que étant un remake,
ça, il est moins bon que.
Il m'a moins marqué. Bah c'est même pas question de bon ou moins bon. En fait, la qualité du film, j'ai pas de problème. Mais forcément, quand t'as déjà vu l'histoire, que tu la revois, même ça a beau être un film, il a beau être exception le film, bah tu peux être moins marqué parce que tu vas pas être surpris, tu vas pas, enfin. T'as moins de surprises, donc t'es forcément moins marqué par le film. Donc moi, c'est pas pour dire que l'original est forcément meilleur, même si je pense que je préfère quand même l'original. Enfin,
je pense que l'original est meilleur, personnellement. J'ai aucun problème à dire.
Je peux même pas dire, même pas forcément. Enfin, il est différent, quoi. Il a une ambiance plus sérieuse, plus. C'est un peu plus. Enfin, il est un peu plus dans l'ambiance, un peu moins dans l'action, mais bon, ça, c'est limite un choix. Mais par contre, ouais, t'es forcément moins marqué quand. Par les retournements de situation et tout, quand tu les as déjà vécu. Donc du coup, il y a une place un peu particulière. Moi, je dirais que c'est peut-être Casino qui m'a le plus...
Mais ouais, un excellent film, Casino. Ouais.
Et voilà. Et puis, j'en profite pour rappeler que Martin Scorsese, c'est aussi le clip de Bad de Michael Jackson.
Oui.
Et ça, c'est important de le rappeler, parce que c'était quand même... dans le genre, si on demande un clip qui a marqué les gens, je pense que ça sera forcément celui-là, ou... Enfin, ça sera forcément un clip de Michael Jackson. Et il y a des chances que ça soit celui-là ou Thriller, quoi.
Moi, ce serait le clip de George Michael qui a été réalisé, il me semble, par David Fincher.
Peut-être. Après, bon, il y en a d'autres. Hein, mais
qui s'appelle, qui s'appelle Freedom, et qui est juste incroyable.
Mais dans le genre
Freedom 90, puis
dans le genre clips qui ont un peu tout changé.
Mais qui ont, ouais.
Puis, enfin, qui étaient des clips qui en fait étaient des films.
On s'entend que Bad
Thriller durait 10 minutes, un quart d'heure.
Mais ouais.
Voilà, je pense qu'on a fait bien le tour. En tout cas, moi, je suis très excité.
On a bien fait le tour.
Très excité de voir un nouveau film de Scorsese avec, avec un thème qui a l'air très intéressant et une affiche qui est vraiment super belle.
Oui.
J'adore l'affiche. J'ai toujours été intrigué par ce film, mais justement, j'ai toujours envie de le voir par rapport à l'affiche.
C'est le genre de film qui passe sous le radar dans le sens où on est exactement la même réaction que toi dans le sens où je suis j'ai envie de le voir puis il y a un autre film qui sort puis soudainement je regarde un autre film ou t'es genre
le nombre de films qu'on a envie de voir et qu'on voit pas
Ouais.
Ça,
mais du coup c'est ça me c'est c'est une des raisons qui fait que je suis très content qu'on ait l'opportunité de le regarder, parce que bah, pour une fois, ça va me permettre de checker la boîte, la box, de regarder un film que j'ai actuellement envie de voir.
Oui, ça fait partie des points, des avantages de ce podcast, qui des fois se transforme en désavantage quand c'est selon le
quand
film,
c'est l'inverse,
selon le film concerné, mais là, on peut dire pour cette fois-ci, en tout cas, c'est un avantage.
Ça, pour cette année, on commence plutôt bien, pour être honnête là-dessus. Mmh.
Bon, on est parti.
Eh ben, ouais, on se retrouve juste après le film.
Don't give me that look.
What look?
You know what look. It's all over your face. That I just saved a little baby boy look.
We just saved a little bouncing baby boy. Think of it that way.
I don't want to hear about it, okay? That's three jobs for the night. It's over. Three jobs. Time for a drink. 6 a.m., the cocktail hour. All right, so pass the bottle. I know you're holding.
The bar is now open.
Et on est de retour après avoir vu À tombeau ouvert de Martin Scorsese. Et puis, ben, on va juste se lancer directement dedans.
Ouais, si, juste avant, bon, on va en reparler après, mais je vais juste dire que, donc, je pense qu'on l'a, enfin, on l'avait dit en intro que c'était sur un scénario de Paul Schrader, donc, ce qui avait écrit le scénario de Taxi Driver. Ouais, ça se ressent un peu, hein.
Oui, exactement. Et aussi, on s'entend que c'est basé sur un livre qui s'appelle aussi Bringing Out the Dead de Joe Connelly. Donc, mais t'as raison. Hein,
Enfin, on ressent qu'on l'équipe là qui s'est reformée. Ouais.
Et on sent qu'ils s'amusent. Hein. J'avais, honnêtement, ça c'est un truc que je vais dire. On sent qu'ils se sont au moins amusés à faire leur truc. Là.
Donc ouais, bah pour attaquer le résumé, on va replacer le contexte. Donc on est à Manhattan au début des années 90 et on va suivre Frank Pierce qui est un infirmier, un ambulancier, je veux dire.
Un ambulancier. Ouais.
Voilà, donc qui passe la nuit à écumer les rues de Manhattan pour répondre aux différents appels d'urgence. Et aller récupérer le plus vite possible les personnes pour les amener à l'hôpital. Enfin, on va se rendre compte tout au long du film que c'est un peu plus compliqué que ça. Son rôle est un peu plus consistant que juste être conducteur et de faire des allers-retours. Mais c'est évident qu'il doit donner les premiers soins et puis voilà, après ensuite stabiliser la personne jusqu'à l'emmener à l'hôpital si besoin.
Exact.
Et puis l'autre particularité de cette personne, c'est qu'on sent qu'elle est un petit peu burn-out dès le début du film, en fait. Il fait le choix de nous mettre, de nous commencer à un moment où il est déjà très mal en point, quoi. Il explique, je sais plus, ça fait combien d'années qu'il fait ça, 5 ans, je crois qu'il dit.
Quelque chose comme ça, ou 3, 4, 5, quelque chose. Enfin, fait pas si longtemps que ça, il est pas encore un vieux de la vieille, mais quand même, là, il a quelques années.
Suffisamment pour avoir. Pour avoir des traces, quoi.
Voilà, et c'est aussi pour ça, c'est là qu'on se rend compte très très rapidement le contraste entre lui et les gens plus expérimentés avec qui il finit toujours par se retrouver. Donc au cours du film, il se retrouve avec trois différents gars, joués merveilleusement par John Goodman, Ving Rhames et Tom Sizemore, respectivement, plus on avance dans le film. Et c'est là, on voit vraiment la différence entre lui qui est vraiment cramé, qui n'en peut plus, et les autres qui sont généralement un peu plus relax, qui sont capables de s'endormir, blablabla.
Ouais, oui et non. Enfin, en fait, tout le monde a un peu explosé du cerveau.
Ouais,
mais chacun a sa manière.
Chacun
a sa façon de cope, enfin de, voilà, de
dealer avec ça.
Avec les événements.
Toi aussi, tu cherchais un mot français et puis on n'y arrivait pas.
Ouais, c'est toi qui m'a contaminé. ils ont tous leur manière un petit peu de résister aux événements et de trouver une méthode pour s'habituer, quoi. Que tout ça passe sur eux sans les marquer, mais bon, avec plus ou moins de réussite. Mais c'est ça qui a fait partie des choses intéressantes du film, c'est que c'est pas le seul qui est très affecté par ce qu'il voit, et ça paraît logique.
Exact.
Et donc, il commence
avec la première personne, qui s'appelle Larry, qui est joué par John Goodman, un John Goodman en forme et qui a bien la classe, et ensemble, ils vont répondre à un appel d'un gars qui a fait une crise cardiaque chez lui, qui s'appelle Monsieur Burke, en français.
dont la fille est Patricia Arquette.
Jouée par Patricia Arquette. Et on en reparlera plus tard un petit peu de Patricia Arquette parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire dessus par rapport à Nick Cage.
En tout cas, c'est un personnage, enfin, on va s'en rendre compte après, c'est un personnage qui va être récurrent et c'est pas pour rien qu'on commence par ce premier appel.
C'est ça. Qui va jouer donc cette fille, la fille de Monsieur Burke, Marie. Et donc, on a le droit à Nick Cage et John Goodman qui vont répondre à cet appel. D'ailleurs, avec une scène super drôle, ils sont obligés de monter des escaliers et John Goodman qui est tanné parce qu'ils sont forcément au 5e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et mon Dieu, que ça doit être horrible pour les gens qui doivent vraiment faire ça dans leur métier. Et donc voilà, ils arrivent sur place et malheureusement, il semble que Monsieur Burke, il est un peu décédé. Mais... en fait, non. Ouais. Nick Cage, donc.
Ouais, joue, après avoir appelé le.
Frank Pierce, se rend compte que bah, finalement il a encore un pouls. Donc il demande à son pote Larry de. Annule le cadavre mobile parce que j'ai paumé le nom, comment ça marchait.
Et appelle. Le corbillard.
Le corbillard, voilà, et va me chercher une stretcher, putain, mais j'y arrive pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui,
ouais, un brancard.
Attends,
je suis là, je dois trouver les traductions. Ça fait travailler.
C'est un bon jeu, ça te fait un jeu, c'est sympa.
Ouais.
Un brancard pour le sortir et l'emmener à
l'hôpital. C'est ça, dans un premier temps, ils ont appelé l'hôpital pour lui dire, écoutez, le mec qu'on allait voir, il est mort. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a encore un peu de vie en lui. Et donc, ils changent leur plan et ils le transportent jusqu'à l'hôpital pour qu'il se fasse traiter. Donc il y a justement il y a cette scène très intéressante et qui revient souvent dans le film, c'est le moment où ils apportent la personne à l'hôpital et l'hôpital qui doit trouver où mettre la personne. Enfin il y a vraiment ce sentiment d'urgence où il y a une personne qui arrive, à la fois, ils veulent absolument sauver des vies, ça c'est clair, mais ils sont un peu dans l'idée de se dire, putain, encore un mec, c'est bon, ça fait chier d'avoir encore quelqu'un qui faille gérer, qui faille trouver. Tu m'avais annoncé qu'il était mort et maintenant il faut que je trouve une place, un petit bout de couloir. On sent vraiment l'absence totale d'espérance de ces gens qui travaillent dans les hôpitaux ou au niveau de l'ambulance.
Je vais faire une légère parenthèse parce que je trouve ça super intéressant. C'est un film qui est sorti en 99, donc à 21 ans. Et c'est fascinant de voir que c'est littéralement encore les mêmes problèmes qu'on est en train d'avoir en ce moment. C'est-à-dire que t'as un gars de nuit qui emmène un patient dans un hôpital. Ils sont obligés d'avoir un garde, un policier devant la porte pour empêcher les gens de rentrer. Quand ils rentrent dedans, il y a des brancards partout. Tous les lits d'hôpital sont pleins. Et c'est quelque chose qui est déjà incroyable. Puis c'est des choses que nous, maintenant encore, 21 ans plus tard, même sans le fait qu'il y ait une pandémie en ce moment, on doit dealer avec. Le fait que les hôpitaux, ils ont le manque de personnel et tout ça. Donc je trouve ça fascinant de me dire que c'est un problème. Ça fait 20 ans qu'on a ce problème-là. Sinon, ils n'auraient pas fait un film là-dessus, même si c'est clairement une caricature un peu entre guillemets. Hein, ils ont poussé chaque truc à 11. Ben, ça reste.
Ouais, je sais pas si c'est tant une caricature que plutôt le fait de c'est là le choix de situer le truc dans ce quartier-là précisément et tout fait qu'ils n'ont pas choisi le quartier ou enfin qu'ils ont choisi un quartier où on imagine que c'est pire qu'ailleurs. C'est là dans ce sens-là où ils poussent le truc. Après, je pense que
dans le film en lui-même, c'est un peu grotesque, c'est un peu poussé. Je veux dire le policier devant la porte, c'est un gros policier qui arrête pas de répéter me fais pas enlever mes lunettes parce que sinon ça va chauffer. T'as la femme qui à chaque fois qu'elle admet quelqu'un, elle leur dit si vous voulez pas mourir, faudrait peut-être pas prendre de la drogue ou des trucs comme ça. Enfin, tu sais, je veux dire, les personnages sont un peu
personnages en couleur, mais
c'est ça que je veux dire, c'est que tu sais que c'est un petit peu exagéré, même Frank, il est un petit peu exagéré, ses collègues sont un peu petit peu. Je dis pas que ce genre de personne n'existe pas dans la vraie vie, mais pour le film, ils ont fait exprès de cadrer des gens qui sont en haut en couleur.
Oui, c'est sûr. Après, je trouve que dans ce genre de domaine. Les gens ont tendance quand même souvent à à faire de l'humour, à trouver des moyens en fait
pour dealer avec
d'alléger le truc. Ça fait partie, enfin on, voilà, ça fait partie des mécanismes de sauvegarde, et du coup ça m'a, j'ai trouvé c'est assez logique en fait. Donc effectivement ça sert le film parce que du coup ça te permet de pousser le message, et en plus d'avoir des personnages que tu vas bien te rappeler, mais c'est pas illogique quoi.
Non, c'est pas illogique, mais je pense qu'il y a ce côté on pousse un peu tout le monde à 11 pour montrer que Frank il est dans un endroit dans sa tête, il est en train de péter un câble quoi. Après, donc, oui, c'est très logique.
Il y a la façon de réaliser et tout qui a pu pousser le côté hystérique du truc, qui fait que voilà, ça s'arrête. Exactement, jamais, ouais. Et du coup qu'il a un flux continu, lui, il a abreuvé en fait Frank de à la fois de paroles. Les gens sont tous très bavards par contre, c'est sûr.
Ouais, c'est frénétique, ça bouge, voilà. C'est incroyable.
À la fois des images qu'il va se prendre tout au long de la sa nuit, mais c'est vrai que par contre sur le côté je pense que les gens sont plus bavards que
normalement.
Que dans la réalité, parce que voilà, ça fait partie de, c'est ce qui va en tant que spectateur te permettre de ressentir la même chose que Frank ressent.
Et tout ça pour dire que je trouvais ça vraiment intéressant de voir que c'est un problème qu'on a depuis 20 ans, puis qu'au final il est peut-être même pire maintenant quoi. Mais voilà, et donc là-dessus ils amènent Monsieur Burke à l'hôpital, et le docteur il a pas trop le choix que de trouver une pièce où peut-être qu'on va le mettre, mais là il lui dit écoute, par contre ton gars c'est un légume quoi, même s'il se réveille il va probablement son cerveau il sera plus là quoi. Donc la famille veut, la famille qui bien sûr a suivi Frank refuse de le laisser mourir, donc ils sont plus ou moins obligés de le garder branché quoi. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que Frank il est pas inintéressé par Marie quoi. Il a l'air d'avoir un petit rapport entre elle et lui, et voilà, malheureusement là-dessus son pote Larry lui dit écoute, il faut qu'on y aille. Ils ont même pas le temps de manger, je crois, ou alors ils lui ramènent un burrito pour qu'il bouffe dans le.
C'est aussi là qu'on fait la connaissance d'un autre personnage qui va être récurrent, d'une autre personne qui s'appelle Noël.
Ouais. Noël.
Qui fait partie des gens qui sont sur un brancard dans le couloir, mais qui lui est attaché parce que qui hurle pour qu'on lui amène de l'eau, enfin, et il se trouve que on va comprendre que c'est une personne qui fait une connaissance de jeunesse de Marie.
Exact.
Je sais plus exactement, c'était un pote de son frère, non, c'est ça, je crois que c'est un pote
d'enfance de son frère. Ils vivent dans la même rue, je crois. C'est juste un truc, ils vivent dans la même rue, donc ils se connaissent.
Ouais, mais il se trouve que par son frère, ils sont...
Oui, voilà, ou son,
ils sont...
son père... Non, son
ils
cousin,
étaient assez proches avec son frère, je crois que c'est ça.
Alors, je vais te couper deux secondes. Là, on est en train de montrer un petit peu c'est quoi le problème, entre guillemets, de ce film-là. C'est que comme c'est tout intense, que c'est très rapide et tout ça, c'est difficile d'avoir des choses qui vous font une impression. Et donc, tout se blend in un peu, et il y a des fois où c'est difficile de se rappeler exactement ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains détails où on est un peu moins... on est un peu moins sûr, finalement. Mais
un détail très important, de toute façon.
C'est pas un détail très important, mais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué par rapport au film, que ça se blend pas mal, un peu tout. Et on apprend rapidement, en plus d'ailleurs, que Noël, clairement, soit il a des problèmes mentaux, soit... c'est un junkie, je sais pas trop exactement, mais voilà, lui aussi il est pas forcément super bien dans sa tête quoi.
Ouais, voilà, bon, sûrement un peu des deux, mais ce qui est intéressant c'est que donc en fait c'est pour ça on les présente comme ça, il y a vraiment une notion de un peu de galerie de personnages qu'on va retrouver, et c'est aussi un des thèmes principaux du film, c'est ces gens qui passent une nuit à l'hôpital mais qui sont relâchés, et le lendemain ils vont revenir, en fait. Il y a ce côté, voilà, les gens qui vont venir de manière récurrente, qui sont, ou qu'on peut pas sauver, ou que la rue, à chaque fois, et leurs conditions, de vie va les renvoyer à chaque fois vers l'hôpital. Ça fait partie des thèmes majeurs du film. Donc, lui, en fait, Noël, au final, il est une personnification de ce problème, Ça peut être par le côté par la drogue ou par la folie des gens qui en fait l'hôpital n'est pas fait pour les gérer en fait. Ils se retrouvent là parce qu'il se trouve que leur état va faire qu'ils vont avoir des blessures en plus des problèmes d'addiction ou mentaux. Mais l'hôpital, lui, il peut juste gérer le problème immédiat, le court terme. Mais au final, il a pas d'impact. Il est pas capable de les soigner sur le long terme. Donc en fait. C'est aussi des gens qui vont épuiser le personnel à revenir alors que ils ont l'impression d'avoir aucun impact sur leur vie quoi. C'est pas quelqu'un que tu sauves et puis après voilà, il va continuer sa vie là, ils vont le revoir tous les jours.
Ça.
Ce qui participe à la fatigue mentale du personnel. On a un autre personnage un peu comme ça qui s'appelle Mr. O. Qui lui est un alcoolique et qui tous les soirs boit jusqu'à être en danger de mort et donc du coup a besoin d'être amené à l'hôpital et ils savent qu'ils vont le retrouver le lendemain quoi.
D'ailleurs, ça nous permet de parler aussi du thème principal du film qu'on a un peu oublié, c'est le fait, c'est pas un thème principal, mais de la chose qui arrive à Frank en ce moment, c'est que ça fait un mois ou deux mois qu'il a sauvé personne, que toutes les personnes qu'il va récupérer avec son ambulance finissent par décéder. Et c'est pour ça que malgré le fait qu'il aime pas vraiment Monsieur O, malgré le fait qu'il aime pas le fait de devoir gérer ces gens-là tous les jours, il est quand même content quand il reçoit ce genre d'appel parce qu'il sait que ça va juste être on va choper un mec, on va l'emmener à l'hôpital. Il y a probablement aucune chance que ce gars décède et comme ça au moins il est tranquille. Et c'est surtout ce genre de choses-là qu'il a envie de faire. On sent vraiment qu'il est fatigué, qu'il a limite envie. Il le dit plusieurs fois dans le film qu'il a envie qu'on le renvoie. Il veut plus faire ce travail, ça le dérange. Malheureusement pour lui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un appel assez important qui arrive, où il y a deux personnes qui se font tirer dessus.
Mm.
Et victimes de gunshots, finalement. Et quand ils arrivent sur place, en fait, ils se rendent compte que c'est des dealers, et que ils se sont fait tirer dessus parce qu'ils étaient en train de vendre une nouvelle drogue, apparemment.
L'autre grand thème du film.
C'est ça, l'autre grand thème du film, que cette drogue s'appelle la Red Death.
Le grand thème, c'est pas...
C'est pas cette drogue-là, mais c'est la drogue en général.
C'est la drogue en général, voilà. Comment la drogue, en fait, a changé l'impact de la drogue sur le travail quotidien du personnel médical.
Exact. Et donc ils arrivent avec, il y a deux corps, donc ils arrivent avec deux ambulances. D'ailleurs, Noël, il lui était arrivé un autre truc, il l'avait récupéré il voulait suicider ou je sais pas quoi, il faisait semblant de vouloir suicider, ils l'ont récupéré en place. Donc il y a aussi Noël dans l'ambulance. D'ailleurs, on a le droit à un truc vraiment, que j'ai trouvé très très drôle. C'est de l'humour très très noir, mais j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Parce que comme Noël veut mourir, Nick Cage, pour le convaincre d'aller à l'hôpital, il lui dit que s'il monte dans l'ambulance, ils iront le piquer à l'hôpital, quoi. Ils iront et on a le droit à un moment assez incroyable où t'as le gars qui s'est fait tirer dessus, qui est sur le brancard, qui essaye de dire me laisse pas mourir, et t'as Nick Cage qui lui dit t'en fais pas, tu vas pas mourir. Et derrière il y a Noël qui fait ouais, mais moi je veux mourir, mais toi tu vas pas mourir. Et il y a un petit échange assez frénétique, sympathique. Malheureusement pour Nick Cage, le gars décède et ça continue son streak de tous les gens qui... Sa série, merci. De tous les gens qui ramènent avec l'ambulance, qui sont mortellement blessés, finissent par mourir.
C'est ça. Et après, donc, on a le droit à un nouveau jour. Donc nouveau jour égale nouveau partenaire. Donc cette fois, on va le voir avec Marcus.
Marcus. Ving Rhames avec des cheveux.
Méconnaissable, je trouve.
Incroyable.
Si on n'avait pas dit qu'il y avait Ving Rhames dans le film, je pense que j'aurais même pas tilté que c'était lui. Il est vachement, il fait bien plus âgé. Donc il joue le rôle du, lui, son truc, c'est la religion, très, très religion. Au début, on comprend trop s'il est premier degré ou pas.
Ouais.
Mais a priori, il est plutôt premier degré. Donc lui, ça va être un peu ça, sa manière de survivre à tout ce qui leur arrive. Donc,
c'est ça, ouais. Et il est un peu, on va dire bon vivant, quoi. Il aime manger, il aime les femmes, et en même temps, voilà, il est religieux, mais pas religieux fanatique, il est juste religieux, il cite les scriptures, il est, voilà, il est un peu dans le côté spirituel de la religion, plus que le côté
voilà, par contre, il y fait souvent, il y fait beaucoup référence.
Voilà.
Justement, ils ont un premier appel où il y a un gamin qui est, pour ne rien changer, en train de faire une overdose.
Exactement.
Donc on est à encore une fois sur un cas lié à la drogue, qui en plus, a priori, est cette fameuse nouvelle drogue qui a l'air d'être quelque chose d'encore plus dangereux qui vraiment a le risque de tuer sur le court terme, mais pas uniquement d'avoir des impacts sur le long terme. Donc, il diagnostique Franck repère très vite que c'est ça qui cause l'arrêt cardiaque du jeune homme, alors que bon. Ils veulent pas trop le dire au début. Et voilà. Du coup, bon, le mec s'en sort pendant que justement Marcus fait tout un pitch aux gamins en leur disant que c'est Jésus qui va le sauver pour un petit peu les faire basculer de son côté, on a l'impression.
Ouais.
Donc ils font une prière en tous ensemble en se tenant la main, et il y a le gamin qui sort de son arrêt cardiaque, mais en fait c'est parce que Franck l'a injecté avec un médicament et que ça lui a permis de reprendre ses esprits. Ouais, alors après sur le retour, donc là il retourne à l'hôpital et il décide, Franck demande de passer en fait à l'appartement de Marie, donc la fille jouée par Patricia Arquette. Donc il a envie de lui donner des nouvelles de son père, mais après on comprend vite quand même, c'est aussi un peu une excuse, voilà. Ouais.
C'est surtout une excuse pour revoir Marie, donc il arrive chez elle et lui dit votre père a l'air d'aller mieux, ce qui est vrai, hein, il lui ment pas.
Oui.
Pour le coup, on apprend qu'il va un peu mieux, que même s'il continue à faire des crises cardiaques tout le temps, ils arrivent pas mal à le stabiliser et il a l'air d'aller mieux. Donc là, il lui propose écoute, grimpe dans l'ambulance, on va t'emmener là-bas. Et une fois arrivé là-bas, il se commande une pizza, puis commence à manger et à parler en même un peu. Et c'est là qu'on apprend que Marie était justement une ancienne addict.
Mm.
Ancienne avec de gros guillemets au final, on verra un peu plus tard. Mais
oui,
elle commence à lui parler, il commence un peu à se parler justement de la difficulté de ce genre de choses, du fait que... elle demande à Frank probablement peut-être que il l'avait ramassé un jour dans les rues, tout ça, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de d'interactions entre eux, ce qui les rapproche un peu, mais malheureusement ça s'écourte un peu parce que Marcus revient et lui dit on a un appel, donc faut que tu viennes, on y va. Et là-dessus, pareil, on a le droit. On revoit. Moi, je l'aime beaucoup ce policier black avec ses lunettes de soleil qui gueule un peu sur tout le monde pour leur dire qu'il a pas le droit de rentrer. Donc là, il va lui donner la pizza et il s'en va. Et Frank s'en va pour répondre à un appel de deux Portoricains, je crois.
Ouais, c'est ça.
Dont un homme et une femme. Dont une qui est en train de donner naissance à des jumeaux.
Petit indice, crois. C'est la femme.
Oui, voilà.
C'est pas l'homme.
Alors qu'ils sont censés être tous les deux vierges. Et là, donc une fois de plus, on a encore le droit à un bon moment d'humour noir où t'as Nick Cage qui est en train de gueuler sur le gamin en lui disant « Non, non, ça c'est des enfants, là. Ça se voit, il y a un pied qui sort. C'est un enfant, là. Vous êtes vierge peut-être, mais... Enfin, toi t'es vierge peut-être, mais... » apparemment pas elle, hein, parce que l'enfant il est en train de sortir là. Donc voilà, donc ils finissent.
Donc là, ils se dépêchent de retourner à l'hôpital parce que il va pas faire l'accouchement, hein, parce que l'accouchement a commencé en fait, hein, mais que évidemment ils sont pas dans les conditions pour le faire et que c'est très dangereux pour la mère. Donc ils arrivent à l'hôpital et ils arrivent à, donc la mère réussit à accoucher en bonne santé. Le premier des deux jumeaux pareil. Par contre le deuxième des deux jumeaux va mourir dans l'opération.
Donc voilà, celui dont Marcus s'occupait survit et celui dont Frank s'occupait décède, ce qui fait que au final voilà, il a perdu une autre personne encore, et cette fois c'est un bébé, donc ça le
Ça ouais, le... et puis bon, il... quand il retourne dans la voiture, t'as Marcus qui, lui, est hyper joyeux en disant, voilà,
putain, j'ai mis, un enfant,
au... j'ai mis au monde un enfant, tout, c'est, enfin, ça, ça me lui redonne du pep pour retourner un peu au charbon. Et puis bon, bah, Franck, du coup, ça a pas, il a pas eu ce, il a pas eu cet effet-là, donc,
Malgré le fait que Marcus essaye de le convaincre que c'est un team effort, oui. Que c'est genre qu'on, on a réussi, on a sauvé des enfants, puis, non, Marcus, Frank, il le voit pas comme ça.
Ouais, ça donc le, ça suffit pas à lui, à lui redonner un petit boost moral. Donc là, bon, il continue, tu sens que, voilà, il tombe encore plus, dans sa, dans son mécanisme, lui, bon, il tourne un peu à l'alcool et au café, a priori.
Ouais, voilà. Donc là, il décide il de boire un peu dans
ce, qui,
la...
ce qui passe, ce qui leur passe sous la main. Bon, Marcus, qui lui, il boit un coup aussi, mais pas plus parce qu'il est content. Et bah, qui l'aurait peut-être pas dû parce qu'il va cracher le, cracher l'ambulance.
Ça, alors ça, je m'y attendais, mais tellement pas.
Bah, surtout que ça a pas trop d'impact sur la suite du film, c'est ça qui est marrant. En fait.
Ils ont craché une ambulance, mais craché, là. C'est pas genre juste, ah, je suis rentré dans une voiture. Non, l'ambulance, elle se retourne, puis elle glisse sur la rue pendant genre un bon 10 mètres. Et là, t'as, les deux sont en train de rigoler. T'as Frank qui genre sort de l'ambulance, puis qui se barre en mode, ah, je quitte, je démissionne, c'est fini. Et
Oui, parce qu'on l'a pas dit, en fait. Il y a tout un truc, ça aussi, c'est très, je trouve ça très drôle. Enfin, mais c'est vraiment de l'humour très noir. C'est tout au long du film, en fait, il y a Frank tous les jours qui va aller voir son patron pour lui dire, mais s'il te plaît, vire-moi. Il fait tout ce qu'il peut pour être viré, en fait. Et le patron, à chaque fois, lui dit, non, mais je te virerai demain, t'inquiète pas et tout. Bon, alors, c'est évidemment, bon, c'est drôle quand ça se passe dans le film, mais c'est surtout, bah, une manière de montrer que le patron, lui, ils sont tellement sous-effectifs, c'est tellement la merde que... Il peut même pas, enfin, il est obligé de, entre guillemets, forcer les gens, à continuer, quoi. Même quand il voit qu'il y a des gens qui pètent un câble, je crois qu'il y a un autre personnage qui dit oui, moi aussi, il me refuse à chaque fois de me virer, enfin. c'est à la fois une scène, des scènes qui sont drôles, mais en même temps, c'est des scènes qui sont d'un désespoir profond, quoi.
Et là justement on a une donc le film suit bien sûr et on a le droit à
oui on peut dire que Frank et Marcus ont que quelques égratignures hein.
Voilà ils y vont très très bien hein. Frank arrive à rentrer chez lui il dort et d'ailleurs on voit la première scène du film qui se passe de jour en fait parce que la suite se passe le lendemain matin et Frank voit Marie un peu stressée qui sort de l'hôpital, puis commence à lui demander, à lui parler, à lui demander comment ça va, comment ça se passe. Puis là, elle lui dit, il faut que j'aille dans cet appartement voir une amie à moi, mais c'est un peu un immeuble un peu sketchy, est-ce que tu veux venir avec moi? Donc le gars, il est genre, bah, ouais, ok, bon. Donc là, ils vont dans cet immeuble.
Oui, ils rentrent dans l'appart. Au début, elle lui dit, non, mais attends-moi dehors, et au bout de 15 minutes, si je suis pas sorti... bah écoute tu viens m'aider quoi c'est qu'il y avait peut-être un truc qui a mal tourné mais lui dit bah c'est idiot enfin si tu vas voir une amie qui est malade je monte avec toi c'est autant et tu sens qu'elle est elle est pas trop motivée à ça et on va comprendre après pourquoi
on comprend assez rapidement hein, vraiment en fait l'endroit c'est un endroit c'est un crack den quoi c'est un endroit où les gens prennent de la drogue quoi. Donc Frank finalement parce qu'il en a marre d'attendre finit par rentrer dedans et là il se rend compte que il y a un gars qui s'appelle Sai je crois un dealer de drogue qui a l'air bien gentil qui lui dit t'es l'ami à Marie viens voilà et il lui montre Marie puis Marie elle est en train de faire son trip dans un lit après avoir pris de la drogue puis là le gars lui dit écoute t'as l'air fatigué tu sais t'as l'air fatigué et honnêtement tu prendrais une de ces pilules là ou deux de ces pilules là puis tu serais parti 20 minutes tu dors puis t'es refrais donc comme on sent que Frank il est un peu au bout de sa corde il décide de les prendre
ouais il dort très mal
et malheureusement cette drogue là a pas l'air de lui faire plaisir parce que une chose qu'on n'a pas vraiment expliqué c'est que depuis le début il arrête pas de voir d'halluciner plus ou moins des fantômes de gens qu'il a pas sauvés
surtout une personne.
Surtout une personne qui s'appelle Rose, mais de temps en temps, on voit un gars par-ci, par-là, c'est une autre personne. Puis là, malheureusement, la drogue fait qu'il hallucine encore plus, et que il voit encore plus de fantômes et machin. Et dans un moment de pure folie où il se met à gueuler, il décide de prendre Marie et de se barrer de là.
Est-ce que c'est à ce moment, je suis un petit doute, mais est-ce que c'est à ce moment-là justement où on revoit la scène de Rose?
Où il essaie d'expliquer première fois.
Ça va être
oui, avec Clary. Ouais, peut-être, il me semble
pendant
que c'est
le
là,
film, il y a plein de moments en fait, dans la rue quand il voit quelqu'un, il voit sur la personne le visage de Rose. Donc on comprend qu'il y a eu un truc avec elle et que traumatisant, mais c'est tout quoi, on n'a pas d'explication. Et il me semble que c'est à ce moment-là où justement on va revoir la scène où qui l'a traumatisé, c'est a priori il était avec avec son partenaire Larry et il devait intuber une fille qui s'appelle Rose et il a pas réussi et il se trouve qu'elle est morte voilà dans la rue dans ses mains dans ses bras quoi. Donc il est de manière compréhensible il se sent coupable de sa mort et c'est pour ça qu'on comprend à ce moment-là que c'est les raisons pour lesquelles elle le hante tout au long du film. Mais voilà, là l'effet de la drogue lui a fait qu'il revit des scènes de manière encore plus vivace que juste voir son visage sur quelqu'un dans la rue. Donc ça lui rappelle toutes ses pensées traumatisantes, il est choqué et là il décide de, comme tu l'as dit, de prendre Marie et de dans ses bras et de quitter le plus vite possible cet appartement.
Voilà, donc il la ramène chez elle et il finit, il me semble, il dort chez elle, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, en fait, il la ramène jusqu'à chez elle, elle dit « mais pourquoi tu me suis ?» et tout. Il dit « bah, tu peux pas me marcher ». Donc, et après, quand il est chez elle, il se pèse sur le canapé et voilà, elle le laisse dormir chez lui.
En même temps, il lui dit « tu peux pas rester chez moi », mais le gars, il peut juste plus bouger, donc voilà.
Elle est sous drogue, tu sens qu'elle, bon, elle lui un peu... lui sort quelques vérités qui sont pas bonnes à entendre, mais après elle le laisse quand même finalement dormir chez elle. Justement, quand il va la revoir après, il va lui expliquer que c'est un des sa seule nuit, sa seule réelle nuit depuis très longtemps quoi.
Ouais. Et finalement, malgré le fait qu'il avait décidé de quitter, il finit quand même par retourner une troisième fois au travail. Cette fois-ci, on lui demande d'aller avec un gars qui s'appelle Tom Walls, qui est joué par Tom Sizemore, qui est un gars qu'on a vu déjà 2-3 fois dans le film, qui est un peu un gars un peu violent, qui était l'ancien partenaire de Cage, blablabla, et qui est toujours très enthousiaste, parce que, voilà. Et à ce moment-là, Frank, il est en mode, je veux juste me remplir la tête le plus possible, puis... On prend tous les trucs qui passent, genre tous les appels qui passent, on y va, on va foutre la merde.
Ouais, se tenir occupés en fait.
Voilà. Et il y a une scène un peu amusante entre guillemets. Pareil, toujours de l'humour noir. C'est vraiment de l'humour très très noir. Faut aimer ce genre d'humour où il y a justement un SDF qui vient dire qu'il voulait se suicider, mais en fait on se rend compte qu'il s'est juste coupé un petit peu, c'est juste une égratignure, puis pas dans le bon sens, parce que j'ai pas envie de donner de conseils sur le suicide, donc je vais pas dire pourquoi, mais
j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé dans un seul épisode, mais
ouais mais du coup si c'est déjà le cas j'ai pas envie de le rappeler. Bref, finalement il finit par
gueuler, mais en gros il l'engueule parce qu'il lui dit bah tu t'y es pris n'importe comment quoi,
tu t'y es pris n'importe comment et tu veux qu'on te ramène à l'hôpital, blablabla. Donc il lui gueule dessus, le SDF s'enfuit et voilà, ils sont complètement cramés par ça, ils sont un peu high on power. Et là, ils sont rappelés une fois de plus parce que il y a eu un shooting dans un voilà, des tirs de gun dans un endroit où ils vendent de la drogue quoi. Malheureusement pour Nick, pas malheureusement ou heureusement pour Nick Cage, on s'en fout là, mais on se rend compte que c'est exactement dans l'endroit où Marie l'avait emmené le jour d'avant. Bah, même pas le jour d'avant, le matin en fait, le matin même.
Ouais, c'est l'appart de Sai.
De Sai. Et là-dessus, il y a deux personnes qui sont mortes et Sai qui lui est empalé sur une grille de balcon.
Ouais, sur les barrières, l'espèce de barrière avec des pics pour faire joli, mais qui font pas que joli.
Parce qu'il a voulu sauter de son toit pour aller...
Ouais, il a voulu sauter du 16e au 14e étage, sauf qu'il s'est foiré et qu'il est tombé sur la barrière et pas au sol, quoi.
Donc là, il est semi-empalé sur la barrière et ils essayent de le sauver en coupant la barrière et tout ça. Donc c'est pareil, c'est encore une scène que je trouve vraiment très très drôle parce qu'il y a un mec qui est empalé qui parle à Nick Cage en lui disant hey, « Tu sais, les $20 que tu me dois pour la drogue, on va dire laisse tomber, là, si tu me sauves la vie, on est quitte. » Donc voilà, c'est des moments assez drôles là-dessus comme ça. Et donc voilà, on passe vraiment de moment en moment comme ça... où on rencontre ses caractères, ses personnages, une fois de plus, c'est la dernière fois, il me semble, qu'on va voir Noël.
Ouais, c'est ça, en fait. Après avoir... Cage va sauver la vie du dealer parce qu'il est, il reste bien accroché à lui alors que l'autre a failli tomber dans le vide, mais bon, il le tient. Et il a failli même du coup mourir lui, mais il se trouve qu'il était attaché, les secouristes l'avaient attaché avec un harnais, donc du coup ils arrivent à remonter les deux. Et après ça, ils continuent en fait leur tournée comme si de rien n'était. Et cette fois, ils répondent pas à un appel, c'est Tom qui veut. Il tombe sur Noël et Tom qui a priori l'a croisé plusieurs fois les derniers jours et on commence à en avoir marre de que ce mec. Leur prennent du temps, alors que, voilà, limite, lui, il a des doutes sur le fait qu'il soit vraiment fou, il a l'impression que c'est prémédité, et il veut lui mettre une dérouillée pour qu'il arrête de faire le con, quoi. Il se trouve qu'en plus, là, il est avec une balle de baseball en train d'éclater des pare-brises de bagnole.
Ouais.
Donc, ils établissent tout un plan un peu cartoonesque où ils demandent à Cage d'aller parler avec lui parce que pendant ce temps-là, il ferait le tour et qu'il se mettrait à genoux derrière lui et comme ça, quand Cage le pousserait, il tomberait parce que, voilà, il se taperait les jambes contre son dos, quoi. Bon, ça va pas se passer exactement comme prévu parce qu'en fait, Nicolas Cage, quand Noël va lui tendre la batte de baseball en lui disant tiens vas-y et toi aussi essaye de casser des trucs, il se laisse convaincre parce que tu sens qu'il a il a ce besoin un peu cathartique de casser quelque chose. Justement, il l'a dit un peu plus tôt dans la voiture, il avait envie de casser des trucs, donc ouais. Quand il lui présente la batte, il fait pareil, quoi. Et là son coéquipier comprend pas trop sa réaction. Il dit, mais t'es fou, on n'est pas censé casser des trucs, nous. Et il se met à poursuivre Noël dans la espèce d'allée sombre où il était parti s'enfuir, et commence à le tabasser, après l'avoir attrapé, jusqu'à ce que, justement, Frank lui dise, non, allez, tu arrêtes maintenant, et il s'occupe de lui, de ses premiers soins, et va l'amener à l'hôpital, et au final, lui sauver la vie.
Alors, on sent un peu que le fait d'avoir sauvé Sai pour une fois, ça l'a un peu fait snapper de ce côté j'arrête pas de tuer des gens et que maintenant, ok, faudrait peut-être que...
Ouais, et puis il y a Marie qui lui a expliqué toute la relation avec Noël, lui a expliqué qu'avant il était pas comme ça, mais que il a eu un événement traumatisant qui fait qu'il est devenu comme ça. Donc il a pas le même point de vue que Tom, qui lui, je le vois juste un mec qui fait chier, quoi, qu'il les fait chier tous les jours. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus proche, il comprend au final ce qui arrive à Noël.
Et c'est un peu, donc là on arrive un peu dans le dernier gros moment du film, entre guillemets, parce que justement quand il ramène Noël à l'hôpital, il décide d'aller voir justement le père de Marie, et là il hallucine un peu, on dirait que genre il regarde dans ses yeux.
C'est vrai qu'on n'a pas trop expliqué.
Il y a deux, trois moments dans le film où il a l'impression, tu sais, il essaye de le... Quand le père a une crise cardiaque, il le réanime et lui, il a l'impression que par ses yeux, ou juste parce que c'est une hallucination, que le père, il a pas envie d'être ressuscité, quoi. Il a envie de mourir et tout ça.
Et il entend le père lui parler, en fait.
Voilà, il entend le père lui dire pourquoi est-ce que tu fais ça, quoi.
Nous, on sait que c'est pas vrai parce que on montre bien que sa bouche ne bouge pas. Enfin, que, clairement, visuellement, on comprend très bien que c'est pas du tout que le mec lui chute quelque chose.
Il est intubé, il peut pas parler. Le gars, c'est un légume, de toute façon. Mais là, finalement, il y retourne et malgré le fait que le père soit stabilisé, il a quand même l'impression que, cette personne-là a pas envie d'être là, quoi.
Il est juste pas mort, mais il est pas vivant non plus, quoi.
Voilà, donc
son état empire pas forcément, même si en fait il a quand même des arrêts cardiaques près toutes les demi-journées. Enfin, ils arrêtent pas de le réanimer. Et bon, il y a un petit côté acharnement à ce niveau-là, et du coup, Nicolas Cage, lui, il ressent que le Monsieur Burke a envie d'être libéré un peu de tout ça.
C'est ça.
Et après, plusieurs fois dans le film précédemment où ça se sentait, enfin, on le voyait parce qu'il refuse, enfin, il refusait de l'aider. Là, il va plus loin, c'est pas qu'il refuse de l'aider, c'est qu'il fait le choix d'agir pour le laisser mourir.
Ouais, donc il arrête le truc qui lui permet de respirer et Monsieur Burke finit par décéder cette fois-ci. Et bah voilà, en fait, dans la dernière scène du film, tout simplement, ce que Nick Cage fait, c'est aller parler à Marie pour lui dire, bah voilà, ton père, il est décédé. Et on a le droit à cette dernière scène où Marie demande à Frank s'il a envie de rentrer, ce à quoi il dit oui, parce que bien sûr, il est intéressé. Et ça se termine, ouais, ça se termine là-dessus, quoi. Bah, y a un peu des deux, quoi.
Ouais, en fait, c'est un peu bizarre parce que bon, tu sens quand même qu'elle lui plaît, mais c'est pas trop poussé dans le film. Et à ce moment-là du film, c'est plutôt le fait qu'il est, quand il est dormi chez elle, c'est, en fait, il est plus vraiment bien dormir. Et là, justement, vu que ça se finit, en fait, où il est en train de s'endormir dans ses bras, on a plus le côté, c'est une présence réconfortante. Il se sent bien auprès d'elle, et du coup, lui qui est tellement épuisé, qui est vraiment fatigué et tout, c'est auprès d'elle qu'il arrive à un peu à se relâcher et à s'assoupir. Et donc, le fait d'accepter d'entrer chez elle, c'est aussi un moyen de pouvoir un peu lâcher la pression et de se laisser aller, quoi. Il n'y a pas le côté juste attirance, romance. Il y a vraiment... c'est quelqu'un avec qui il se sent bien. Enfin, voilà. Le film va pas forcément pousser l'aspect romance. C'est pas, enfin, c'est un fil rouge, mais c'est en même temps, c'est pas non plus, fait pas partie des thèmes principaux du film.
Ouais. Mais voilà, ça se finit un peu de cette manière un peu doux amère, qui est à la fois un côté rédemption pour Cage, qui maintenant, bah ça y est, le poids a l'air d'être levé de ses épaules du fait qu'il avait plus sauvé personne, parce que pour lui, il considère que c'est sauver une personne, finalement. Et il y avait aussi le fait que la dernière fois qu'ils avaient vu Marie, ils n'étaient pas tout à fait...
Ils s'étaient revus, elle s'était excusée quand même. Mais...
Oui, mais voilà, il y avait un peu un froid, et maintenant, ça a l'air aussi de l'avoir un peu fini. Et voilà, et ouais, c'est là-dessus bah, qu'on...
Elle accepte facilement, entre guillemets, l'annonce, parce que bon, elle était bien au courant au fond d'elle que bon, c'était juste temporaire et qu'il n'y avait pas tant d'évolution positive que ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que oui, effectivement, c'est ça, c'est doux amer dans le côté où c'est un peu positif, mais en même temps pas suffisamment pour contrebalancer le désespoir total du film. C'est quand même, j'ai l'impression que c'est le principal sentiment du film, c'est vraiment d'un désespoir infini, quoi. Donc ce ouais. Petit côté, ce petit plus vers la fin, il est pas suffisamment important pour c'est pas pour dire bah voilà, à partir de maintenant tout va aller bien.
Non,
pas
du tout,
pas du tout l'idée. C'est vraiment OK, là il a ça qui va lui permettre peut-être de vivre le truc un peu mieux, mais la situation qui ne concerne pas que lui directement, c'est toujours aussi désespéré qu'au début du film.
C'est ça. Et donc, c'est là-dessus qu'on termine À tombeau ouvert de Martin Scorsese. Et alors, À tombeau ouvert de Martin Scorsese, sais-tu bien ou pas?
Ah bah, il est bon le con. Hein.
Ah putain, ouais.
Non, mais ce qui est fou, c'est que même des films comme ça qui sont moins...
Enfin, connu, moins...
Bah ouais, c'est un film qui a pas... Enfin, je crois qu'il est même pas rentré... Enfin, il a dû à peine rentrer dans ses frais. Enfin, ouais. C'est pas un film qui a fait beaucoup au box-office. Même des films mineurs pour ce genre de réalisateur, c'est quand même des claques, quoi.
Alors ouais, un peu ce que je disais plus tôt, c'est... Tu sais, on a un peu l'impression que tout va trop vite, que c'est super intense, que ça rush, ce qui fait que ça te donne un côté un peu... Tu vois, moi, j'ai vu le film il y a 5 jours, puis déjà, il y a plein de choses que... Je me rappelle moins de choses que ce que je me rappelle d'autres films que j'ai vus, tu sais, genre...
Ouais, après, dans, le film, dans la même période, tu vois. C'est pas forcément des trucs précis qu'il a envie de te tuer. Tu te rappelles, c'est plus des thèmes de généraux, ouais, et puis un ressenti. Je trouve que c'est un... J'ai rarement eu un film qui je pense a réussi aussi bien par le visuel, par tout, à donner une émotion, quoi. Et quand, ouais, je dis émotion, c'est pas juste, c'est pas le film, c'est pas dans le sens où il a envie de te faire pleurer. C'est vraiment que le fait de te faire ressentir à la personne qui regarde le film le côté désespéré de tous ses protagonistes, enfin la profonde enfin vacuité d'un peu de ce qu'ils font des fois, enfin ça, il arrive parfaitement à le transmettre. Parce qu'il y a rien à des films qui arrivent à te rendre triste. Si tu veux rendre, de toute façon, si tu veux rendre triste un des spectateurs, tu y arrives avec des grosses ficelles et tout, il y a pas de souci.
Tu es un chien.
Tu, ouais, non mais voilà, par exemple. Non mais tu peux toujours y arriver. C'est pas si dur que ça. Mais là, ouais. Mais par contre, vraiment ce ressenti de, enfin.
Non, de malaise, de fatigue, de... C'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord
et
avec
sans,
toi. Là-dessus,
et sans pousser le truc, quoi. Il le force
il
pas.
Il réussit, et en plus, il est drôle, ce film. Ce film est drôle.
Ouais, alors après... Bon,
moi, j'aime l'humour noir.
Non, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, je trouve que quand tu le dis comme ça, ça peut te donner une mauvaise impression. Enfin, pas une mauvaise impression, mais...
Oui, non.
En fait, le film essaye pas d'être drôle.
Non.
Il a pas des scènes où il va faire des blagues, c'est juste que... par contre, il y a de l'absurdité de certaines, et
par
le décalage
contraste...
crée un humour. Alors, un humour qui est voulu, mais pas dans le sens où le film veut être drôle. Mais par contre, enfin, je sais pas si je suis clair. En fait, c'est pas il met des scènes marrantes pour alléger le propos à certains moments. C'est juste que la situation va faire que les mecs sont obligés de réagir avec un certain humour, un certain, voilà, mais c'est pas le film qui va être drôle, c'est plutôt les personnages qui se retrouvent à faire de l'humour, en fait.
Mais je trouve qu'au contraire, l'humour de ce film supporte énormément le message qui passe. Tous les moments que j'ai trouvé drôles, en même temps, ils te font rire et en même temps, tu te dis, ah ouais, putain, ok, ils sont dans cette situation-là. C'est un film, t'as raison, c'est un film de feelings plus que de scènes, ce qui peut donner un côté justement un peu vide une fois que tu l'as fini, une fois que tu l'as vu. Mais par contre, l'émotion que t'as vécue, elle reste avec toi et elle reste avec toi pendant longtemps. Et c'est rare des films qui font ça. C'est rare des films qui font ça de cette manière. Et en plus, c'est filmé de manière, mais...
Oui,
sublime.
On n'a pas trop parlé, mais
les
y a
effets
beaucoup...
spéciaux sont légers, mais bien
foutus pour
l'époque.
Il y a beaucoup d'effets pour montrer beaucoup d'effets pour exprimer la psyché de Nicolas Cage, mais ça, c'est des fois tu peux avoir l'impression que ça va être un peu sur la ligne avec le kitsch ou le too much, mais ça va, ça reste du bon côté quand même. Mais tu sens que voilà, Scorsese c'est pas forcément, enfin il est pas d'un hyper classique dans sa façon de réaliser, il se permet des fantaisies de réalisation, de visuel, ouais, pour son film.
Et surtout, ce qui est génial, c'est le rythme du film. Le rythme du film, je le trouve assez incroyable, parce qu'au final, une fois que t'as vu le film, tu te rends compte assez facilement comment ça marche. C'est-à-dire, c'est super intense parce qu'ils sont dans leur ambulance, ils parlent avec Marie, c'est super intense. Il parle avec Marie, c'est super intense, il parle avec Marie. Mais cette courbe là, haut, bas, haut, bas, haut, bas, elle est toujours incroyable. Et ce que je trouve génial, c'est à quel point...
Elle est logique dans le film, en fait.
Elle est super logique dans le film, et surtout, elle est incroyablement bien timée, dans le sens où à partir du moment où tu commences à t'étouffer un peu de cette intensité, paf, on redescend avec Marie. À partir du moment où tu commences à être un peu ennuyé avec Marie, parce que c'est trop bas, paf, tu repars dans cette courbe. Et c'est monté avec brio, quoi. Est-ce que c'est le film le plus parfait du monde ? Probablement pas, mais c'est super bien monté, super bien filmé, et on va faire un petit segue en parlant en parlant des acteurs. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, déjà?
Juste avant, là, pour rebondir sur ce que tu disais, donc à la fois, en fait, ce côté rythme et cette répétition, elle est logique parce que, forcément, enfin, il y a ce que...
en fait, c'est la vie, c'est sa vie, ça se répète.
Oui, c'est ça, et il a l'impression qu'il peut pas en sortir, il y a une boucle et tout, et tout à l'heure, on le disait pour l'humour et tout, en fait... si je pour utiliser un mot un peu intello, c'est en fait tout est l'humour, le rythme, tout est diégétique. C'est-à-dire qu'en fait tout a une raison dans le film. L'humour va venir parce que, enfin, ça fait que tout est très naturel. Tu trouves ça naturel que les mecs fassent de l'humour. Parce que des fois, il y a des films où, voilà, ils décident de mettre de l'humour parce que, pour alléger, pour plein de raisons. Mais ça paraît pas forcément naturel. Là, tout est naturel, tout est compréhensible par rapport à ce que vivent les personnages. Et c'est pareil pour le rythme, et c'est pareil pour tout. Tout a une logique tout est logique dans le cadre du film et de l'histoire. Donc, là, ça, je trouve que c'est une des grandes réussites du film. Et justement, bah, ça participe, ce côté répétition et ce côté effréné du film, à te mettre dans la peau de, à te faire ressentir ce que ressent Nicolas Cage, qui, pour retourner à ce que tu disais, en tout cas, lui, fait quand même un sacré taf. Et tous les acteurs du film font un sacré taf, je trouve.
Alors, vite fait, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'une diégèse, au cas
ouais,
où...
Ouais, j'essaie un peu d'expliquer après derrière, mais bon,
ouais. Vas-y. C'est juste, ça va être les règles qui vont régir ton univers. Donc, si au début du film, tu montres qu'une personne est capable de faire telle chose, ça veut dire que tout le long du film, il faut qu'elle soit capable de faire cette chose-là. Si soudainement, elle n'est plus capable de la faire... C'est un problème scénaristique, tu n'es plus en rapport avec ta diégèse. Et c'est ça qui veut dire dans le sens, c'est que la caméra, le rythme et tout ça, fait partie des règles de l'univers qui régissent cet univers, en fait.
Un peu dans la manière dont certains films vont utiliser que de la musique diégétique, c'est-à-dire que la musique que tu vas entendre va forcément venir d'une radio ou de quelque chose dans le film.
Et ça m'a donné l'impression vont avoir un rapport avec ce qui se passe. Voilà.
Et là, du coup, ça m'a donné la même chose qu'avec la musique, comme certains réalisateurs le font, mais avec l'humour ou avec des procédés comme ça, en fait.
Et donc, en fait, voilà, revenons vite fait, avant de parler de Cage, revenons vite fait sur les autres acteurs.
Oui.
Alors, déjà, le trio, personnellement, Tom Sizemore, Ving Rhames et John Goodman, il y a rien, j'adore absolument, avec préférence pour Ving Rhames, parce que c'est tellement un rôle qu'on lui donne jamais, en fait.
Ouais, c'est ça. Et je trouve que le fait que des trois, celui qui m'a peut-être le moins marqué, c'est John Goodman, je pense que ça dit beaucoup de la prestation des deux autres acteurs.
C'est parce assez incroyable.
Pour réussir à prendre le pas sur John Goodman, là il s'est parfait pour lui, quoi. Rôle un peu secondaire où il peut excentrique, où il peut y aller à fond. Et qu'il réussit à se faire dépasser par les autres, c'est que les mecs, ils ont géré à côté, quoi.
Mais c'est ça aussi, c'est parce que Goodman, il fait du Goodman. Tu sais, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a pas déjà vu de lui.
Alors que les autres sont encore plus que lui, quoi.
Ving Rhames, je l'ai jamais vu comme ça. Ving Rhames, c'est le genre de gars qui joue toujours un gros monsieur, un gars balasse. Rarement un type joyeux,
qui joue
gentil,
plus sur son
jovial.
Physique.
Ouais, voilà. Et il
que
est
sur
bon.
sa prestation d'acteur. Alors que là, justement, son physique est pas du tout mis en avant. Donc du coup, on voit le reste, quoi.
Et puis Tom Sizemore qui joue le gars frantic, complètement pété, toujours un peu nerveux, toujours un peu cramé, il passe super bien, quoi. Et puis on a le droit à tous les autres personnages secondaires, je reviendrai sur Patricia Arquette un peu plus tard, mais tous les autres personnages secondaires qui sont un peu plus minimal, tu sais, le gars qui joue Noël, le gars qui joue Sai, le docteur, l'infirmière, ils sont super cool, quoi. On s'entend que Scorsese, il choisit pas des gens, nazes, puis il récupère des gens. Il arrive à tirer le truc qui est cool de tout le monde, mais là pour le coup, ils étaient tous super super believable. Je suis jamais sorti du film à un seul moment à cause de ces gens-là, malgré le fait qu'ils soient un peu haut en couleur et des fois un peu, tu sais, genre un peu absurde, mais même là, t'es toujours dans le film, t'es toujours dans le rythme. Moi, j'ai envie de donner un petit shout-out à Judy Reyes, qui joue une infirmière pendant 2 secondes dans l'ICU, parce que elle joue dans Scrubs, et que c'est aussi une infirmière dans Scrubs, et que j'adore Scrubs, donc bravo. Mais voilà, c'est fou, quoi, et c'est un film qui te touche aussi par rapport aux acteurs. Les acteurs sont incroyables. Puis ouais, le trio Rames, Goodman, puis Sizemore, chacun joue leur truc. Et comme tu disais au début, ils sont tous endommagés d'une manière différente et ils le jouent tous d'une manière exceptionnelle, quoi. Ils sont tous juste dans leur truc. Et pour terminer, on va finir avec Patricia Arquette.
Oui, c'est vrai qu'elle est un peu à part, je suis d'accord.
Elle est un peu à part, mais c'est aussi parce que je veux raconter une histoire sur Patricia Arquette et Nick Cage, donc je me dis c'est bien de le faire entre les deux. Patricia Arquette, donc, qui joue Marie, qui joue dans une subtilité, j'ai trouvé. Elle est peut-être un peu plus effacée que tous les autres, parce que tous les autres sont vraiment haut en couleur, mais justement, c'est ça sa force, en fait. Parce que après avoir que des personnages qui sont incroyablement haut en couleur, qui sont tous poussés à 11, bah elle est calme, elle est normale, et je pense que c'est aussi pour ça, peut-être, que le personnage de Frank Pierce est attiré par cette personne, parce que quand il est avec elle, ben, ça diminue, ça redescend, cette excitation est un peu plus basse, et elle le joue
si, oui, c'est le personnage qui va amener du calme, en fait.
C'est ça.
Donc c'est logique qu'elle soit un peu effacée, parce qu'elle va contrebalancer tout ce que vit Frank dans sa vie de tous les jours.
Et ce que je trouve fascinant, c'est que, tu sais, au final, après, ou alors on apprend que c'est une ancienne addict, et finalement, c'est pas tant une ancienne addict, c'est toujours une addict. Alors, en même temps, quand t'es addict.
Oui.
Donc, des fois, tu retombes, tu rechutes. C'est, d'ailleurs, j'ai plus l'impression que c'est une rechute qu'autre chose, mais...
Oui, c'est ça.
Elle continue à jouer du début à la fin avec cette innocence, entre guillemets, cette innocence. Puis c'est un peu la seule personne qui se fâche, qui s'offusque, qui se frustre, qui vit en fait des émotions très humaines que tous les autres ont plus finalement. Oui, Tom Sizemore, il est toujours fâché, il est pas fâché au monde, il est juste énervé, il est juste tout le temps énervé. Oui, John Goodman, il est ambitieux, enfin, ils ont chacun leurs émotions, mais elle a vraiment toute une palette d'émotions, elle passe partout, et en même temps, honnêtement, Patricia Arquette dans ce film, au début, la première fois que tu la vois, j'étais un peu triste, parce que j'étais genre, ah, elle est effacée, tu sais, j'ai l'impression qu'elle donne pas tout son potentiel.
Après, elle est effacée dans sa façon de jouer, mais aussi en temps d'écran, en fait, elle n'a pas tant que ça.
Non, c'est vrai, elle pop de temps.
Alors qu'au début, on peut penser qu'elle va avoir beaucoup plus de temps d'écran, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense qu'il y a un peu les deux qui donnent cet effet-là. C'est pas que son personnage, c'est aussi le fait que tu la vois moins que ce que tu peux penser. Donc du coup, t'as moins l'occasion quand même de qu'elle s'imprègne.
Et regarde, le meilleur segue possible que je vais réussir à faire, parce que une chose que j'ai toujours adorée, que personnellement j'aime quand je regarde des films, c'est regarder des films quand je sais que les acteurs principaux sont ou étaient mariés à l'époque. Puis je trouve ça absolument génial de voir Nicolas Cage et Patricia Arquette jouer un peu cette danse de « ils se rencontrent ». Je pense que le fait qu'à l'époque ils étaient mariés, c'était assez incroyable, parce que ça se voit dans la face de Cage qu'il est très intéressé par elle, que genre... Clairement, il jouait pas, là. Enfin, je veux dire, c'était clairement juste, il était content de jouer avec sa femme. Et en même temps, on a Patricia Arquette qui, elle, de son côté, ben voilà, on voit qu'elle est un peu intéressée par ce gars-là, mais en même temps, elle a un peu peur de l'entraîner avec lui. Il y a du jeu entre les deux qui est juste exceptionnel. Et je vais me permettre de faire le petit moment histoire, parce que je trouve cette histoire absolument incroyable. Donc, comme je l'ai dit, dans les années 2000, Nicolas Cage et Patricia Arquette étaient mariés. Mais derrière tout ça, il y a une histoire absolument fantastique que je trouvais incroyable. Nicolas Cage a rencontré Patricia Arquette quand il avait 24 ans, elle en avait 19, dans un supermarché, avec son pote Crispin Glover, son pote le Crispin. Et ils ont commencé à lui parler, machin, blablabla, et ils l'ont trouvé tellement nice que... Directement là, sur place, Nick Cage et Crispin Glover lui ont dit qu'ils allaient l'épouser. Pour Crispin Glover, c'était une blague, mais pour Nicolas Cage, c'en était vraiment pas une. Et il arrêtait pas, à chaque fois qu'il la recroisait, il arrêtait pas de lui dire « je vais t'épouser un jour, je vais t'épouser un jour, je vais t'épouser un jour ». Et à un moment, Patricia Arquette, elle en a eu un peu marre, donc elle lui a dit « écoute, si tu veux m'épouser, faut que tu me ramènes des trucs exceptionnels. Genre la signature de J.D. Salinger, le gars signé absolument aucun autographe, pratiquement personne, une orchidée noire qui n'existe pas en vrai, une orchidée noire ça n'existe pas, la tenue de mariage d'une des tribus la plus hostile du monde, puis des trucs complètement impossibles à faire. Le truc c'est que plus ça va, plus ça avançait, et plus il commençait à lui ramener des trucs. Des trucs de sa liste. La seule chose qu'il n'arrivait pas à trouver, bah, c'est une orchidée noire, ça n'existe pas. Donc tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une orchidée violette, puis il l'a peinte en noir. Ça a fait freak out Patricia Arquette. Il a réussi à trouver un autographe En fait, il n'a pas réussi à trouver un autographe de Salinger. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait signer un autographe, mais il a réussi à trouver une lettre de Salinger qui était signée par lui. Donc, du coup, voilà. Au final, à un moment, Patricia a fini par décider qu'ils allaient sortir ensemble, blablabla. Ils sont sortis ensemble pendant quelques temps, mais ça n'a pas marché parce qu'à un moment, Nick Cage s'est énervé dans un aéroport. Apparemment, il a juste pété un câble dans un aéroport. Et donc, ils ont décidé de se séparer. Mais 10 ans plus tard, ils se sont revus dans le même magasin où ils se sont rencontrés la première fois. Et quelques semaines plus tard, c'est Patricia Arquette elle-même qui a demandé à Nick Cage de l'épouser. Et ils se sont mariés pendant 5 ans. Et je trouve ça absolument incroyable. Voilà. Et je trouve cette histoire exceptionnelle.
On comprend mieux le problème maintenant. C'est comme ça que ça a démarré le problème de Nicolas Cage, d'acheter des trucs improbables aux enchères. Et juste, il s'est pas arrêté, quoi.
Donc, et de l'intensité du mec, quoi. C'est vraiment une histoire qui montre encore plus que ce gars-là est juste fucking intense et qu'il est malade. Et donc,
et que harceler les gens, ça marche. Et
que... C'était les années 80. I guess. Non, c'est pas une excuse. C'est vraiment pas une excuse. Mais enfin bref, tout ça pour revenir, voilà, segue terminé, et on va pouvoir finir avec qu'est-ce que t'as pensé de Nick Cage dans ce film ?
Alors, c'est compliqué de définir à quel... En fait, bon, il n'y a aucun doute sur le fait que la performance est réussie.
Absolument.
Ouais. Après, c'est j'arrive pas forcément à définir à quel point elle est réussie. J'ai pas ressenti une prestation exceptionnelle non plus. Mais en même temps, on lui demande pas non plus de c'est pas le personnage le plus expressif de tous par rapport à d'autres. Donc forcément, ça a l'impression qu'il est en demi-teinte des fois par rapport à d'autres personnages. Mais il y a des personnages qui sont tellement forts et tellement too much que du coup, en comparaison, il peut paraître fade, mais il réagit par rapport à ce qui lui arrive la plupart du temps, c'est en étant juste désespéré et un peu mollasson. Il n'a pas le côté qu'il y a pas dans d'autres films où il va réagir à ce qui lui arrive en pétant un câble. Là, il pète pas tant que ça un câble. Non. Enfin, il va avoir une espèce de descente aux enfers, mais qui va pas se matérialiser par le mec qui va aller casser tout ce qui bouge ou qui va voilà. Il y a un moment où il prend une batte et il casse une pare-brise, c'est tout quoi. Donc du coup, c'est ça qui fait que c'est pas si évident que ça. À juger de sa prestation, par contre, il y a aucun doute sur le fait que, elle est au moins réussie, très réussie. Après, je sais pas où jusqu'où elle est, mais elle est au moins très réussie.
Je suis absolument d'accord avec toi sur tous les trucs. J'ai juste rajouté quelque chose que je trouvais super intéressant, c'est que Scorsese est pas forcément la personne la plus. Il dirige beaucoup, mais il laisse les gens faire leur truc. Ça se voit avec De Niro, ça se voit avec... ça se voit avec De Niro. Mais il laisse les gens faire leur truc. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu intéressant de voir que Nick Cage, peut-être tout simplement parce que il était content de travailler avec Scorsese qui voulait pas faire de la merde, peut-être, qu'il n'est pas parti dans... Il n'a pas cranké son truc à 11 comme il le ferait. Mais il y a aussi le fait que par contraste, comme les autres aussi sont crankés à 11 pour une fois, peut-être que la folie que lui aurait faite dans un autre film, s'il avait fait le même type de folie dans un autre film, peut-être qu'on l'aurait plus remarqué. T'sais, peut-être que dans ce film-là, ça se remarque moins parce que c'est un peu plus homogène avec ce qui se passe autour. Donc... je suis d'accord avec toi, c'est difficile. Puis il y a aussi le fait que, comme je disais, c'est facile d'oublier un peu ce qui se passe une fois que t'as fini de regarder le film. Donc, c'est plus difficile de capter un truc qui t'a sauté à la tête en particulier. Donc, grosse prestation, moins grosse folie, je dirais. Mais tu sais, folie quand même dans le milieu. J'aurais pas de problème avec un 5 dans la folie. peut-être même
ouais,
plus.
Ouais, moi je pense à mettre un 6, tu vois, parce que bah, voilà. Je trouve que c'est au-dessus de la moyenne.
Ouais.
Mais effectivement, quand tu lis le pitch, tu peux t'attendre à... Enfin, tu t'attends à plus, pas dans le sens où tu veux plus, mais tu pourrais imaginer qu'il aille dans cette direction-là. Et le fait qu'il n'y a pas, au final, n'est pas si inintéressant.
Eh ben écoute, ouais, moi je suis d'accord avec 6 pour la folie, et pour la performance, j'ai aucun problème à lui mettre un 8,5.
Et bah c'est exactement ce que je voulais mettre.
Donc c'est parfait.
On est d'accord.
On est raccro là-dessus. Et bah, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on avait à dire sur
Tombeau Vert. Bah justement, ce que j'allais dire, c'est que je pourrais parler du film sans doute encore des heures et des heures.
Oui.
Je voulais refaire un point sur les différentes thématiques du film pour dire à quel point je l'ai trouvé intéressante. Mmh. Je trouve qu'il m'a fait un peu penser aussi à Rusty James dans le côté regard comme le monde a changé.
Ouais.
Je trouve que le thème principal du film, c'est l'arrivée de la drogue dans la rue. Et comment ça a changé, en fait. Et le côté où les ambulanciers, au lieu d'aller voir quelqu'un qui est blessé, de le sauver et que c'est fini, ce côté où maintenant ils sont inutiles, entre guillemets, enfin pour ce cas particulier, et que ça revient toujours. Donc il y a ça, qui est, je trouve, le thème principal du film, de voilà, le regard comme le monde a changé. Et je pense que Scorsese, c'est quelqu'un qui a souvent fait des trucs là-dessus et puis il dépeint vraiment, ouais, c'est la ville, enfin Manhattan, c'est pas un film carte postale, hein. C'est vraiment, c'est très acerbe comme critique, et très désespéré, et c'est dur, quoi.
Mais c'est un peu le mantra de son œuvre, hein, si tu regardes à Scorsese, regarde comme le monde a changé, hein.
Casino, ouais,
Goodfellas, tu sais, genre, The Irishman, I guess, aussi, tu sais, genre, c'est son bread and butter,
Et là, ouais, je trouve que c'est un film qui te fait réfléchir à l'impact qu'a pu avoir la démocratisation de la drogue, et notamment, enfin, des drogues dures, d'un point de vue que on n'a pas forcément eu. Enfin, je trouve qu'il est très intéressant à ce niveau-là.
Bah oui. Ouais.
Comme film. Et encore,
c'est très sociétal, on s'entend.
Ouais. Mais que ça a vraiment un impact à toutes les couches. Et puis ça, et puis bon, alors il y a évidemment un sujet sur le droit de mourir.
Ouais, aussi.
Qui est assez évident. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tant que ça dans le résumé, mais ça revient quand même beaucoup de fois où il continue à aller voir Burke, et qu'il à chaque fois, quand il y va, bah, il entend le mec parler en lui disant voilà, surtout, non, mais accepte pas qu'il me garde en vie. Voilà, donc il y a ça qui est intéressant. Et puis voilà, quoi. Enfin, il a des, je trouve que il est très, le film est réussi très bien dans ce qu'il essaye de faire, d'aborder les thèmes forts, et puis pour le premier, qui est assez inédit, quoi, surtout de ce prisme là
ouais, non, c'est un film incroyable, ouais.
Et souvent, t'as les réalisateurs aussi qui ont filmé une ville et qui sont un peu amoureux de la ville, quoi. Là, on n'est pas dans un film de Woody Allen, hein. On n'est pas dans Manhattan de Woody Allen, c'est tout l'inverse, quoi. C'est vraiment un réalisateur qui va filmer sa ville, mais qui déteste sa ville, quoi. Enfin, en tout cas, dans ce film-là, il prend un peu cet angle-là du regarder à quel point ma ville est détestable.
Puis elle est très impersonnelle. On sait jamais t'es dans quelle rue, on sait jamais, tu sais que t'es à Manhattan mais t'arrives jamais à te replacer, machin, c'est très impersonnel, et je trouve que ça, ben, une fois de plus, ça apporte vraiment beaucoup au fait que Frank se sente déconnecté, Frank se sente, t'sais, genre, c'est assez génial, c'était ouais. Dans des rues qui sont pas, oui, puis ouais, les rues sont, j'ai pas envie de dire qu'elles sont,
oui, et puis le côté
elles
que
sont réalistes, t'as... en fait. Elles sont pas.
Non, parce que par contre, juste... il a vraiment resserré l'action avec peu de personnages qui reviennent souvent, donc ouais. Ça se donne un petit côté moins réaliste, mais ça appuie son propos, quoi.
Ben non, parce que, en fait, justement, c'est ça, c'est la seule connexion qu'il a avec sa ville, en fait. C'est ces gens-là qui reviennent. Et c'est, en fait, c'est super intéressant. Je suis tout à fait d'accord. On pourrait parler de la symbolique de ce film pendant encore une heure sans aucun
problème. Et puis sans parler évidemment de voilà de toute la critique des manques de moyens.
Exact.
Voilà, mais ça c'est plus évident. Mais en dehors de ça, je trouve que ouais, il a vraiment beaucoup de mérite ce film. Et je suis étonné qu'il soit pas plus considéré.
Oui, beaucoup. Surtout que je sais que d'un point de vue critique, surtout par Roger Ebert, qui est quand même une sommité dans le, il est par toute compte assez incroyable. Mm. Et je suis tout à fait d'accord avec ça.
Bon, bah du coup, j'espère que ça vous a donné en tout cas envie de le voir. Je pense qu'on a été assez.
On s'entend qu'on fait rarement des épisodes aussi longs pour des films de merde, donc.
Ouais, voilà. Non, puis bon, je pense pas que c'est un film que tout le monde ait vu, donc même si c'est pas non plus le film le plus, enfin c'est pas non plus la petite perle cachée, mais bon, du coup ça nous tient à cœur ce genre de film de que les gens aient envie de le voir à la fin.
Et, donc, et puis ça fait plaisir de savoir qu'il y a des films de Nick Cage comme ça là qui sont cachés, qui sont bons, excellents et que bah il y a peut-être des risques qu'on retombe sur un film comme ça plus tard. Quoi. Ça c'est vraiment cool.
Ouais, peut-être dès le prochain épisode avec 60 secondes chrono. Enfin bon. En attendant, je vais vous demander si ça le cœur vous en dit de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, donc sur Twitter @CitizenCagePod, sur Instagram et Facebook CitizenCagePodcast. Et puis bien sûr après pour ne louper aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la fois sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, toutes les applications de podcast donc via le flux RSS, donc bon, généralement il suffit de rechercher Citizen Cage dans votre application préférée et puis on sera là donc voilà, prochain film 60 secondes chrono de Dominique Senna, on a hâte. En attendant, écoutez, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Ciao.
À la prochaine, tout le monde.